Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Une immense joie d'apprendre que j'étais enceinte. C'est comme si mon corps m'avait dit « Eh ma cocotte, t'as pas réalisé, mais il se passe quelque chose d'hyper important en fait, qui va changer ta vie. Psychiquement, t'arrives pas à vraiment le prendre en compte, mais ton corps te le dit quoi. » Et tout d'un coup, il y avait une troisième personne dont il fallait qu'on prenne compte.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Donc, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Christelle ?
En fait, j'ai envie de vous parler de ma grossesse. Mm-hmm. Voilà, de comment ça s'est passé, de comment je l'ai appris, de comment j'ai traversé tout ça.
Mm-hmm. Aujourd'hui, voilà. Vous avez combien d'enfants, Christelle ?
J'ai deux enfants.
D'accord.
Voilà, okay. J'ai deux enfants, ils ont 6 ans et 3 ans.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant vos grossesses ?
Alors en fait, ma première grossesse, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était dans un contexte très particulier, parce que avec mon mari, on était en tour du monde. Voilà, donc on était à plus d'un an de voyage. Donc c'était un choix, c'était un désir de notre part que je puisse, que la vie arrive pendant ce voyage. Mais quand je l'ai su, alors j'étais en plus malade, donc c'était dans un cabinet médical, dans une salle d'attente, que j'ai fait un test et voilà, qu'on a su que j'étais enceinte. Donc c'était une immense joie d'apprendre que j'étais enceinte. Et en même temps, on était pliés en deux avec mon mari, sur la chaise, quoi. Et en fait, après, j'ai très vite déclenché un érythème noueux, qui était une maladie de la peau que j'avais déjà eue 10 ans plus tôt. Donc ça a été un peu waouh. Je suis en Colombie, sans la famille, sans les amis. Il nous reste plusieurs mois de voyage. Et je suis enceinte et j'ai une maladie qui m'entrave vraiment dans ce voyage. Donc j'avais un peu deux choses qui s'offraient à moi, quoi. Soit je décidais de faire comme si ce problème de peau était délié de la grossesse. Ou alors, je pouvais me dire, tiens, c'est bizarre, c'est arrivé en même temps, c'est peut-être pas pour rien.
Donc pour vous, il y avait un lien entre les deux ?
J'ai vite fait le lien. Ouais, j'ai vite fait le lien. Et le lien que j'ai rapidement fait, c'était que pendant ce voyage, ça faisait un an qu'on était dedans, dans un rythme à deux, dans un rythme où on vivait des choses très fortes, pousser aussi notre corps dans des trekking, des trucs, etc. Enfin, des nuits dans des bus, pas possible. Bon. Et tout d'un coup, c'est comme si mon corps m'avait dit « Eh ma cocotte, t'as pas réalisé, mais il se passe quelque chose d'hyper important, en fait, là, dans ta vie, qui va changer ta vie. Psychiquement, t'arrives pas à vraiment le prendre en compte, mais ton corps te le dit, quoi. »
Ça, c'est quelque chose que vous avez compris à ce moment-là ou il vous a fallu du temps pour décrypter ce qui se passait à ce moment-là pour vous?
Alors, en fait, je l'ai compris à ce moment-là, mais pas dans les 5 minutes qui venaient, bien sûr. Ça m'a demandé quand même, plusieurs jours où j'étais vraiment obligée. On était au nord de la Colombie, je revois encore complètement l'hôtel, etc. J'étais coincée dans la chambre, quoi.
Donc là, vous dites, Christelle, que très rapidement, dès le début, vous avez senti qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'un bouleversement qui était en train de s'opérer en vous, à la fois au niveau du corps, mais peut-être aussi psychologiquement.
C'est ça, tout d'un coup, il y avait le mot qui vient, là, c'est un entravement. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait au départ, à la fois là, une immense joie, mais aussi un entravement à ce voyage, en couple, en amoureux. Et tout d'un coup, il y avait une troisième personne dont il fallait qu'on prenne compte. Et ça a été plus dur d'ailleurs pour moi que pour mon mari. Mais lui, c'était pas un souci de tout de suite se dire on va voyager autrement pour les derniers mois qui nous restent. Enfin voilà, c'était beaucoup plus... Ça rentrait dans sa vie autrement que pour moi.
Donc là, vous soulignez qu'assez rapidement, ça a nécessité de vous adapter. Et une adaptation qui n'a pas forcément été facile à accepter et peut-être à mettre en œuvre.
Bah, je pense que je croyais que je l'acceptais facilement, mais mon corps m'a dit que non. Parce que vraiment, ce que j'avais, c'était très embêtant, très extrêmement douloureux. Enfin, voilà. Et donc, d'emblée, on a dû modifier. Après la Colombie, on montait au Panama. Et d'emblée, voilà ce qu'on avait choisi de faire pour y aller. On a dû changer nos plans. Parce que c'était trop dangereux, en fait, pour la suite aussi de la grossesse. On devait se retrouver sur un bateau pendant 7 heures, mais un tout petit bateau qui allait taper pendant 7 heures. Voilà, et pour un début de grossesse, en fait, c'était prendre des risques. Donc, la fin de notre voyage, donc tout le premier trimestre, en fait, de ma grossesse, on était encore en voyage. Et on a terminé notre voyage chez des amis au Canada, dont la femme, enfin, l'amie en question, venait d'accoucher 6 semaines avant. Et était doula. D'ailleurs, je l'avais appelée dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai eu besoin de l'appeler. Donc d'emblée, avec cette amie, on a beaucoup parlé de la maternité, de la grossesse. Et ça m'a fait du bien parce que ce qui était difficile, c'était d'être seule, de pas pouvoir partager avec quelqu'un d'autre que mon mari, mais c'était un homme, donc je pouvais pas partager d'expérience aussi de grossesse. Et donc là, ça m'a fait un beaucoup de bien de pouvoir échanger avec elle. Et elle m'a offert un livre qui m'a beaucoup touchée et qui m'a accompagnée toute ma grossesse. C'est Une naissance heureuse d'Isabelle Brabant. J'ai commencé à envisager ma grossesse d'une manière que j'avais pas imaginée plusieurs années avant. Enfin voilà, je me disais, moi j'allaiterai pas. Puis j'imaginais une grossesse avec un accouchement avec péridurale, un truc plus classique. Et en fait, le voyage aussi qui m'a fait rencontrer d'autres manières de d'autres cultures, avec d'autres manières de donner la vie. Et pendant cette fin de voyage, est devenu une évidence pour moi le fait qu'on ait recours à l'autonomie. C'était vraiment fondamental. Et je voulais que justement que ce soit un accompagnement de la grossesse où mon mari allait être pleinement présent.
Comment les choses se sont passées pour lui? Est-ce que ce moment d'annonce a été aussi fort pour lui?
Alors oui, ça a été très fort. Lui, il était hyper confiant, hyper détendu, hyper confiant. J'ai confiance dans la vie, tout ira bien, t'es en pleine forme, là c'est rien, c'est un virus passager. Enfin, voilà, donc lui, il était très... Mais ce qui en même temps était bien, le fait que lui soit tranquillisé.
C'était rassurant.
C'était rassurant, oui. Heureusement, à l'autre bout du monde, que lui était rassuré, parce que sinon, je pense que pour le coup, je pense que ça aurait pu me faire un peu basculer, quoi. En fait, il se trouve que quand on est rentré de notre voyage, donc on n'habitait pas chez nous, parce qu'on louait notre appart encore. Donc on a habité chez mon beau-père, on a habité chez mon cousin. Donc c'était une vie encore un peu nomade, mais j'aimais bien en même temps vivre cette grossesse d'une manière un peu nomade encore. Et puis je travaillais un peu, mais pas beaucoup, donc bon, voilà. Et le dernier trimestre, en fait, on est revenu dans notre appartement, donc on a eu toute une phase de déménagement, alors que vraiment tout se passait hyper bien. Tout d'un coup, il y a eu un soir vraiment terrible, où j'ai perdu du sang. Évidemment, inquiétude énorme. Donc ça, c'était en gros dans le 7e... Enfin, 2 mois avant le terme. J'ai appelé la sage-femme... qui m'a dit de prendre du space-fond, de voir si ça se calmait, ça s'est pas calmé. Mon mari, toujours assez calme. Donc ça, c'était quand même bien. Enfin, je garde vraiment un souvenir important de son calme à lui. Mais la sage-femme nous a dit, voilà, là, il faut aller à la maternité, il faut aller aux urgences. C'est quand même pas normal. Et là, c'est comme si tout s'effondrait, quoi. Tout mon monde s'effondrait. Voilà, je partais dans... peut-être le bébé est mort, c'est pour ça que je saigne. Enfin, je pouvais pas imaginer autre chose par rapport au saignement que... Il y a quelque chose de très grave pour le bébé, quoi, qui se passe. Et j'étais à un terme, en plus, où... Enfin, voilà, dans ma tête, accoucher à ce moment-là, c'était pas possible, c'était trop tôt, quoi. Voilà.
Vous vous souvenez à quel stade, justement, quel était le terme?
C'était dans le...
Autour de 32 semaines, à peu près.
Ouais, c'est ça, quoi. Grosso modo, c'était ça. Ouais. 32, 33, je crois, quelque chose comme ça. Et on arrive aux urgences, heureusement, on est pris en charge très vite. Et la sage-femme donc, me fait un examen et me dit, voilà, votre col est ouvert, mais surtout, j'entends que le cœur bat. Voilà. Donc, tout d'un coup, ça y est, les angoisses se calment, le cœur bat, mon bébé est vivant, il est en moi et il va bien. Voilà, il va bien. Bon, par contre, le col est ouvert. Donc on me garde, donc je suis hospitalisée et je termine ma fin de grossesse en fait à l'hôpital. Donc j'avais pas imaginé, mais pas du tout quoi, pendant ma grossesse que ça pouvait arriver quoi. Puisque tout se passait bien, voilà que j'avais démarré à l'autre bout du monde, en mode vraiment non médicalisé. Et là je termine sur un registre très médicalisé. Sous perf, pour pas accoucher, avec l'épicure de corticoïdes pour accélérer la croissance des poumons. Enfin, bon, quand même, un truc costaud, quoi. Et où on me dit, vous pouvez plus vous lever, vous restez alité, vous êtes comme une poupée de verre qui est tellement fragile qu'il faut faire des mouvements les plus doux possibles pour que votre bébé reste là et naisse pas maintenant, c'est trop tôt. Là, j'ai eu besoin, d'ailleurs, de rappeler aussi la psy que je voyais à l'époque, pendant que j'étais hospitalisée. Donc, ça a été une ressource, quoi. Et puis, jusqu'au moment où j'ai eu des contractions importantes pendant la nuit, alors que j'avais ce fameux traitement qui devait empêcher, en fait, les contractions. Et donc, un peu une panique, parce qu'en fait, ma sage-femme... Donc, c'était un accompagnement global. Donc, je vais accoucher de façon physiologique avec cette sage-femme-là, qui a son plateau technique dans une maternité, etc. Et Paloma. Et Paloma Chaumette, au moment où j'ai eu les débuts de contraction, elle était en vacances. Elle était un peu loin, elle était en Corse. Et ça, j'en reparle parce que ça m'a quand même un peu paniquée, en fait.
Donc justement, le fait que vous ayez cherché une personne repère solide et que finalement, cette personne, elle n'est pas là le jour J.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, je me rappelle très bien quand la sage-femme de la maternité est venue et qu'elle me dit, je crois que là, ça y est, malgré le médicament qu'on vous donne pour arrêter tout le processus de l'accouchement, etc. Elle me dit, je crois que là, voilà, votre bébé, il est en train de dire qu'il doit venir maintenant. Et j'ai dit, mais non, c'est pas possible, Paloma est pas là, c'est pas possible. Elle me dit, mais là, le processus, il est enclenché, en fait. Là, c'est terminé, il n'y a plus de marche arrière possible. Et donc, au départ, j'étais dans le non, c'est pas possible, jusqu'au moment où il fallait que je sois dans le oui, quoi. Je pouvais pas rester dans le non, quoi, c'était pas possible, en fait. Et donc, jusqu'au moment où j'ai dit oui et où ça a tout changé, en fait. Ça a tout changé. Je me rappelle, du coup, j'ai pu me relever normalement, ce que je pouvais pas depuis des jours et des jours. Donc là, voilà, ça y est, mon corps se remettait en mouvement, en marche. Et je me rappelle, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, ça y est, c'est maintenant. Et il a tout lâché au travail. Et encore une fois, lui, il était très détendu sur le fait que j'accouchais, bien avant le terme, hein, quand même, j'accouchais 6 semaines avant. Donc il y avait ça aussi, il y avait l'absence de ma sage-femme et le fait que c'était bien avant le terme. Mais lui était très serein, disant « mais je fais confiance à notre bébé, il est fort ». Voilà, parce que moi, j'avais moins cette solidité, quoi. Donc il y avait cette acceptation, effectivement. Ouais.
Est-ce que la fin a été différente pour votre deuxième enfant ?
Alors ce qui a été extrêmement différent, c'est que... Donc pour mon premier fils, la relation à la sage-femme était vraiment dans une relation de confiance. Voilà, ma sage-femme, c'était un peu Dieu sur terre, quoi. Dieu sur terre, elle est là, enfin voilà, c'est... L'accouchement se passera bien, quoi. Voilà. Et sauf que, en fait, la confiance a été rompue avec elle pendant ma deuxième grossesse parce que, voilà, elle disait « Tu pourras pas accoucher de manière physiologique. Là, ton bébé est beaucoup plus gros. Il va naître à terme. Pour le premier, tu as eu des forceps sans péridurale. Mais tu as eu des forceps 6 semaines avant. Là, ce sera pas possible. » Et donc, c'était un truc un peu fou. Je me disais, mais alors que je vois cette sage-femme pour un accouchement physiologique, comment elle peut me dire un truc pareil, quoi? Comment elle peut me dire, ce sera une césarienne programmée? Et en même temps, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup transformé, en fait, cette deuxième expérience, parce que ça m'a obligée, quelque part, à aller chercher en moi, très fort, le fait que, au fond, j'avais peut-être pas besoin d'elle, en fait, pour accoucher, mais que je savais accoucher. Voilà, je savais accoucher. Tout ça, ça s'est passé beaucoup dans la colère, en fait. Donc, il y a eu beaucoup de colère qui a émergé pendant ce dernier trimestre de ma deuxième grossesse. Et en même temps, c'est cette colère que j'ai laissée venir qui m'a permis, je crois, d'aller chercher en moi cette force, cette puissance en même temps, et où j'ai effectivement, les deux fois, finalement, la première fois, j'ai accouché sans ma sage-femme qui était en Corse, et la deuxième fois, j'ai quasiment accouché seule, puisque j'ai failli accoucher dans le taxi, j'ai accouché 5 minutes après être arrivée. Il y a eu beaucoup de colère.
En tout cas, là, vous dites finalement que, de manière différente, pour chacune de vos grossesses, il y a eu un processus de transformation. Est-ce que le terme de crise, c'est quelque chose qui vous parle ?
Ah oui, clairement.
Clairement. Crise identitaire.
Clairement, parce que tout d'un coup, déjà, j'avais un être à l'intérieur de moi, donc j'étais responsable de quelqu'un d'autre que de moi. Donc ça, c'est comme si tout d'un coup, ça me faisait devenir adulte, en fait. J'ai vraiment eu l'impression, alors que bon, j'étais en soi, ok, une adulte qui gagnait ma vie, qui faisait des choix, etc. Mais je sais pas, il s'est passé un truc vraiment, quand même, c'est le mot adulte qui me vient. J'ai eu l'impression de devenir une vraie adulte. Voilà, c'est ça, une vraie adulte. donc il y a ça, et puis, relationnellement, en fait, ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, avec notamment mes parents, mais aussi avec mon beau-père, que je connaissais depuis que j'étais adolescente, puisqu'avec mon mari, ça faisait déjà de nombreuses années qu'on était ensemble. Et donc, ça a changé beaucoup de choses de ce côté-là. Et puis, à ce moment-là, en plus, ma mère, pendant ma première grossesse, est tombée malade, a eu un cancer. Et ça, ça a été extrêmement difficile. C'est-à-dire que... Enfin, il y a eu vraiment un double mouvement, quoi. Les deux sont joués en même temps dans la relation, voilà, à ma mère, à la fois ma grossesse. J'allais donner la vie comme ma mère m'avait donné la vie. Et en même temps, j'avais la peur que ma mère perde la vie au moment où j'allais donner la vie, quoi. Voilà, donc il y avait un truc un peu... Waouh, quoi. Donc ça a vraiment bouleversé la relation... La relation à ma mère, et j'ai eu besoin d'ailleurs de passer beaucoup de temps avec elle. Et comme j'avais du temps pour cette première grossesse, puisque je rentrais de notre voyage et que je travaillais pas à temps plein, etc., j'avais du temps et j'en ai vraiment profité. J'ai parlé de choses que j'avais jamais abordées avec ma mère à ce moment-là. Ça nous a beaucoup rapprochés, en fait. Et avec mon beau-père, ça a changé. Alors là, je parle et pour mon mari et pour moi. C'était pas que pour moi, mais ça a été un bouleversement aussi, j'ai envie de dire, du couple vis-à-vis de la génération du dessus. Et chacun avec aussi ses propres parents.
Oui, dans ce que vous dites, j'entends qu'il y a eu un changement de statut. Du couple adolescent que vous étiez à un couple adulte responsable qui accueille un enfant.
Oui, exactement.
Comme quelque chose un peu d'un rituel initiatique.
Oui, tout à fait, c'est ça. Parce qu'effectivement, on était un peu, je pense, aussi au regard des autres. Le couple qui s'était rencontré si jeune, quoi. Voilà. Et tout à fait. Donc, il y a eu le changement de statut, c'est vraiment le mot statut.
Oui, en tout cas, voilà, beaucoup de femmes viennent ici dans mon cabinet pour et soulignent justement ce changement de statut et que beaucoup d'entre elles ont l'impression vraiment de devenir adultes, alors que parfois elles ont déjà 30, 35, 40 ans au moment où elles deviennent maman pour la première fois. Mais finalement, à ce moment-là, elles ont le sentiment vraiment de vivre cette transformation et de devenir pleinement adultes pour elles-mêmes, par rapport au regard qu'elles portent sur elles-mêmes, mais aussi de ce qu'elles peuvent percevoir du regard que les autres, que leur entourage va porter sur elles.
Et c'est vrai que c'est passé par des moments de clash aussi, quoi. Enfin voilà, c'est pas, c'était pas tout fluide, tout rose.
Oui, donc ça peut se faire dans le conflit, c'est pas forcément facile.
Ouais, ça s'est aussi fait dans le conflit, clairement. Mais conflit qui finalement était nécessaire, hein. Mais et d'ailleurs avec les amis aussi c'était pas rien en fait. Avec les amis c'était pas rien parce que finalement avec pas mal d'amis dont des amis proches j'étais aussi une des premières à avoir un enfant. et forcément il y avait quelque chose qui était waouh quoi. Tout d'un coup ça changeait plein de choses quoi. Ça a changé plein de choses. Et puis, je pense que c'était aussi un moment où, finalement, je me suis rapprochée d'amis qui, pour le coup, pouvaient déjà avoir des enfants. Et donc, c'est comme si je me sentais plus comprise par les personnes qui pouvaient aussi avoir déjà un enfant. Ouais. Enfin, un bouleversement dans la vie, quand même. Mais qui est un processus qui met du temps. Parce que là, quand je le dis, je me rends compte que c'était pas juste la grossesse, quoi. Ni juste l'accouchement. Enfin, franchement, c'est un processus qui dure dans le temps. Et je dirais qu'il m'a fallu une bonne année pour réaliser, quoi. Que j'étais mère, que ça avait bouleversé ma vie, que j'allais plus travailler non plus de la même manière. Enfin, alors que ça, évidemment, que c'était des choses extrêmement positives. Mais qu'il y avait aussi, des renoncements, quoi. Des renoncements, des changements. Ces fameux renoncements qui avaient démarré en Colombie où je pouvais plus aller faire un trekking, n'importe comment avec un sac à dos de 15 kilos sur le dos. Eh ben voilà, les renoncements, y en a eu un certain nombre, quoi. Ça dure, quoi. C'est pas juste une semaine.
Oui, ça me semble important, là, ce que vous dites, justement, cette question de la temporalité, et qu'il faut du temps, et qu'il faut du temps aussi. Certes, il y a le temps de la grossesse, qu'il se passe plein de choses. Vous dites bien que vous avez vécu plein de choses, ressenti des émotions qui vont de l'angoisse à la joie, voilà, que ça a été un peu explosif. Mais qu'il faut du temps pour que les choses, que ces bouleversements psychologiques se concrétisent, finalement, dans la vie, dans le quotidien, et que pour les choses s'installent et deviennent plus confortables. Merci Christelle pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Je vous propose qu'on aille dans le salon d'à côté rejoindre Nathalie Piquet qui est gestalt-thérapeute, sage-femme, qui accompagne de nombreuses femmes durant leur grossesse, des pères aussi, et qui va nous apporter un peu un éclairage, nous aider à y voir un peu plus clair sur tout ce dont vous nous avez parlé.
D'abord, la grossesse, c'est pas seulement un bouleversement psychologique, c'est un bouleversement biologique, c'est un bouleversement mécanique, c'est un bouleversement psychique à trois étages. C'est-à-dire, quand je dis biologique, tout ce qui est sanguin, bien évidemment, tout ce qui est le mécanique, c'est le corporel. Et puis, le psychique, c'est une grande histoire du remaniement psychique de la grossesse, effectivement. Ça prend beaucoup de place. Monique Bilowski dit cette phrase que la grossesse est le saut du psychisme dans le somatique. Et on pourrait voir dans l'histoire de Christelle que son histoire, quand le psychisme saute dans le somatique c'est d'un seul coup la maladie de peau qui apparaît. Je pourrais l'expliquer de façon un peu différente. Par exemple, on s'appuie beaucoup et on commence à le voir un petit peu dans le grand public, les notions de cerveau droit, cerveau gauche. On a partagé un petit peu ces deux hémisphères pour leur attribuer des compétences différentes. Et on fonctionne tous avec ces deux mécanismes, avec un cerveau gauche qui est rationnel, organisé, cartésien. Et puis, il y a le cerveau droit. Le cerveau droit est plutôt intuitif, c'est de la créativité, de l'émotion. Et pourquoi je vous parle de ces cerveaux droit, cerveau gauche? Parce qu'il se passe un mécanisme que les neurosciences jusqu'à maintenant n'expliquent encore pas. Mais on va y venir, une histoire de neurotransmetteurs, on ne sait pas trop, mais une chose qui se passe, c'est qu'on se rend compte, et les sages-femmes connaissent bien ça, c'est que la femme enceinte va passer d'une prédominance dans notre culture cerveau gauche, hein, va passer en prédominance cerveau droit. Ça veut dire quoi ? Que quelqu'un qui est très organisé, calé, va à un moment donné devenir dans son émotionnel, ne plus cadrer les choses, avec des sens qui sont exacerbés, le goût, l'odorat, le toucher. Un cerveau droit a une particularité très rigolote, on pourrait dire ça, c'est que le cerveau droit n'a pas de mots. La femme enceinte va parler en disant bah, « je me sens, oui, enfin, comme ça, mais vous voyez, c'est, enfin, c'est comme ça, quoi ». Et la nature a bien prévu les choses. Pourquoi ce mécanisme-là ? C'est parce qu'un bébé de 0 à 2 ans, c'est un petit cerveau droit sur pattes. J'ai envie de le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il est uniquement goût, sens, odorat, sensation. Et une mère qui passe en prédominance cerveau droit est en train de se conditionner pour parler le bébé couramment.
Donc là, c'est finalement un bouleversement psychologique qui permet à la mère de pouvoir s'adapter à son bébé pour prendre soin de lui, pour être en relation avec lui, et les choses se passent en tout cas au mieux.
C'est exactement ça, et ce qui est amusant, c'est qu'on entend les femmes dire « depuis je suis enceinte », je sais pas, on parle de la folie des femmes enceintes, et la femme enceinte va dire « j'ai l'impression que j'ai plus de cerveau ». Oui, c'est vrai, plus de cerveau gauche, puisque nous passons en prédominance cerveau droit.
Christelle nous a parlé de son mari et du fait qu'il a vécu les choses très différemment. Finalement, quand Christelle était angoissée, lui ne l'était pas. Est-ce que pour les pères, selon vous, Nathalie, est-ce qu'il se passe aussi des choses au niveau, évidemment, psychologique ? Voilà, qu'est-ce qui se passe pour eux ?
C'est pas simple de devenir papa. C'est pas simple parce que c'est aller à plusieurs étages. Aller à plusieurs étages, ça veut dire quoi ? C'est comme si cette mère, elle va avec ce bébé dans la relation, bien sûr, quand ce bébé est in utero, dans son ventre, et même dans les premiers mois de la vie. C'est comme si, et ça c'est des mots qui sont empruntés à la gestalt pour laquelle je suis formée, mais la mère va mettre du « ici, maintenant », c'est-à-dire le monde et mon bébé et moi, tout est fusionnel. Toi, mon bébé, toi, moi, nous sommes le monde. Et la place du père, ici, c'est... Alors, je vais le dire de façon... C'est Winnicott qui dit ça comme ça. Je vous le dis en termes psychanalytiques, à la Winnicott. Et puis, on va voir dans la vraie vie ce que ça donne. C'est que le père va passer à l'enfant, dans les informations qu'il lui donne, dans ses regards, dans sa gestuelle. Il va lui dire ce qui se passe entre ta mère et toi. C'est du fusionnel, c'est du... Et je cautionne tout ça. Mais n'oublie pas qu'un jour, quand on aura fini de tout ça, il y a un monde qui existe, qui n'est ni toi, ni ta mère. Le monde, il est dehors et le monde, c'est moi. Et quand tu auras besoin de moi, appelle-moi. Et on va mettre des graines d'autonomie chez ce tout petit. Et c'est pour ça qu'on dit du père que la mère met de l'ici maintenant et le père met de l'ailleurs plus tard. Dans quelque chose où je te projette dans la vie. Et c'est intéressant de voir comment les mères portent leur bébé de façon coucounée et comment ce papa, il va arriver à la maternité, il va porter le bébé avec le dos du bébé contre lui et puis il va dire, et il va jouer avec ses petits pieds par exemple en disant « Allez, tu joueras au foot, tu feras ci, tu feras ça. » Et il va le projeter déjà dans la vie. Et la mère va dire « Mais attends, il est trop petit. » Elle va le ramener. Je précise une chose, c'est que là, j'englobe sur des schémas. Mais je ne suis pas en train de déterminer aujourd'hui, il faut faire aussi avec toutes les nouvelles parentalités, la place de chacun, où on dirait que cet enfant va avoir besoin d'une, ce que j'appellerais d'une fonction contenante, et puis d'une fonction, je ne sais pas si le mot existe, propulsante. Mais c'est la complémentarité des deux qui va...
Oui, donc là vous dites que par exemple, dans le cadre d'un couple homosexuel, finalement ces fonctions vont se distribuer entre les deux pères ou les deux mères, voilà, dans d'autres configurations parentales. En tout cas, dans tout ce que vous venez de nous dire, hein, Christelle, que ça soit par votre témoignage, Nathalie, par ces éléments théoriques, mais en même temps très concrets que vous nous apportez, c'est que voilà, il se passe vraiment quelque chose au niveau psychique, psychologique pendant la grossesse, un véritable bouleversement, une crise, et que ça se passe finalement quoi qu'il arrive. Parce que c'est souvent quelque chose dont on entend parler quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés particulières, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, durant une grossesse, il va y avoir des étapes psychologiques qui vont être franchies. Du coup, pour revenir un petit peu à ce que vous nous disiez, Christelle, sur la manière dont ces étapes, elles se sont caractérisées, vous nous avez beaucoup parlé de votre corps, finalement, de comment votre corps, il a traduit, justement, ce qui se passait psychologiquement pour vous. Nathalie, est-ce que vous observez aussi, chez vos patientes, ces manifestations corporelles, à travers les sens?
Oui, parfaitement. Tous les sens vont être exacerbés, ce qui veut dire que les goûts et les dégoûts de la femme enceinte, qui sont bien connus, et également ils vont être exacerbés et en même temps va s'associer, je reviens ici sur la notion de cerveau droit, ils vont s'associer ces sens avec une mémoire oubliée. Je donne un exemple d'une jeune femme en salle d'accouchement où la dilatation du col stagnait jusqu'à 5 cm et plus rien ne marchait. Et en la questionnant et en cherchant avec elle, parce qu'on a fait tout le tour au niveau médical, et à un moment donné, lui est demandé « qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui gêne dans cette salle d'accouchement ?» Et à un moment donné, elle a pu me dire « les murs sont bleus et je ne peux pas accoucher dans du bleu ». L'idée, c'est de ne pas lui demander mais pourquoi et comment. Et là, simplement, avec ce papa très créatif, il m'a proposé une grande écharpe fuchsia que nous avons accrochée au mur avec du scotch. Et cette femme, en respirant ce fuchsia à chaque respiration, a accouché en une demi-heure. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Elle ne le sait pas et moi non plus. Mais peu importe, c'est ça l'essence exacerbée de la grossesse et de l'accouchement.
Moi, je me souviens, enfin, que j'avais des obsessions. Alors, surtout pour la deuxième grossesse où j'étais, obsédée par certains aliments. Je fais que je mange des huîtres. C'était mon obsession de la deuxième grossesse. Et par rapport à l'odorat, il y a un truc très fort qui s'est passé. C'est quand je suis tombée enceinte. Alors, déjà, j'ai eu besoin de plus mettre aucun produit sur mon corps, que j'assimilais à des choses un peu chimiques ou avec des odeurs. Voilà. Et j'ai totalement arrêté le parfum. Et depuis que je suis tombée enceinte, je peux plus mettre de parfum. C'est un truc, et qui était pas rationnel, quoi. Qui était juste comme ça, le cerveau droit, quoi, comme vous disiez.
Christelle, vous nous avez aussi beaucoup parlé des émotions, des inquiétudes, des angoisses, de la joie aussi. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, ce panel d'émotions qui peut être vécu pendant la grossesse?
Ce panel d'émotions, bien évidemment, ce sont toutes les émotions déjà liées au sens, une première chose. Et puis les émotions qui vont être liées à l'histoire, à la réactivation de l'histoire de vie, bien évidemment. Il y a deux choses que je veux dire par rapport à ça. La première chose, c'est que ça a un intérêt parce que on va dire que cette femme va amener toute son histoire, toute son humanité, tout son émotionnel au bord des yeux. Je vais le dire comme ça, parce que ce bébé, à la naissance, qui va se plonger dans le regard maternel, il va pouvoir entrer aussi en contact avec tout cet émotionnel. Et c'est parce que ce bébé a une émotion au bord des yeux de son côté, qu'il va rencontrer une mère qui a une émotion au bord des yeux, et c'est là que ça va se rencontrer. Et ça, c'est quelque chose qu'on appelle le proto-regard. Nous sommes en maternologie, concept de Jean-Marie Delassus. Alors, deux choses que je voulais dire, c'est que ce proto-regard, on ne peut pas dire oh, « je n'ai pas pu le faire », donc c'est dans les 5 premiers mois de vie de l'enfant que ces rencontres vont se faire, petit à petit, encore et encore.
Ça me semble important, là, ce que vous dites, qu'en effet, ça n'a pas forcément lieu tout de suite et maintenant, au moment de la naissance, parce que moi, je reçois beaucoup de femmes qui ont idéalisé ce moment de la rencontre au moment de la naissance, mais que ce n'est pas forcément le moment où on est disponible, notamment quand, au niveau du corps, le corps a été pris par, par exemple, un accouchement qui a été compliqué, douloureux. Bah, à ce moment-là, on est encore dans le corps et on n'est pas forcément disponible pour justement rencontrer ce regard, mais bien souvent, elles disent qu'il est arrivé après, quand elles sont retournées dans leur chambre à la maternité ou quand elles sont rentrées à la maison. En tout cas, voilà, que ce regard et cette rencontre de regard et nécessaire va se faire. Et en tout cas, on sait, en tant que spécialiste, que cette rencontre, elle est nécessaire pour justement que la relation puisse naître et se construire par la suite. Alors là, on parle depuis tout à l'heure hein, de ce bouleversement, de ce processus, de la manière dont il se construit. Vous avez parlé de Jean-Marie Delassus qui dit, d'ailleurs, on ne naît pas mère, on le devient. Hein, donc ça dit bien quelque chose de cette construction dans le temps et puis qui balaye un peu aussi cette idée de l'instinct maternel. Voilà, qu'il y a souvent cette idée, bah, soit on l'a, soit on l'a pas. Alors quand on l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, non, heureusement, il y a vraiment quelque chose qui se construit, qui va prendre plus ou moins de temps, qui va être plus ou moins facile ou compliqué en fonction de chacun et de sa propre histoire. On parlait tout à l'heure dans ce que nous disait Christelle, voilà, on a bien vu qu'il y a eu différents temps pendant sa grossesse. Nathalie, est-ce que voilà, vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ces trois temps de la grossesse en fonction voilà, de ces trois trimestres?
Dans ces trois trimestres, je vais revenir à quelque chose de physiologique. Physiologique, c'est-à-dire que nous avons dans notre corps quelque chose qui régule notre émotion et qui s'appelle notre émotion et les manifestations de notre corps, et ça s'appelle le système sympathique et le système parasympathique. C'est deux systèmes qui commandent le corps et les émotions. Et donc durant le premier trimestre, le système parasympathique va s'activer. Parasympathique, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai beaucoup moins d'élan, je suis un petit peu toute molle, j'ai plutôt des nausées, je dors tout le temps, je suis fatiguée. Ça va permettre, cette ambiance-là du premier trimestre, de permettre de calmer un petit peu les ambivalences, d'accepter ce, excusez-moi de le déterminer, je vais le mettre comme ça, mais ce petit corps étranger, et de laisser faire et de m'apprivoiser avec cette grossesse-là. Deuxième trimestre, on va être plutôt dans quelque chose de, et je crois que Christelle le décrivait tout à l'heure, de c'est chouette quoi, tout va bien, équilibre sympathique, parasympathique.
Oui, donc, d'ailleurs, on parle souvent de la lune de miel deuxième trimestre.
Tout à fait, la lune de miel. Donc, et là, c'est un bel équilibre de tranquillité. C'est des grandes catégories. Hein. Après, il y a la particularité de chacune.
Et avec des transformations, enfin, pour ma part, par exemple, au niveau de la libido, vous parliez des sens, au niveau de la libido ou au deuxième semestre, voilà, c'était quand même un moment aussi particulier, quoi.
Ben, il y a toute une harmonie du corps, de l'esprit, des sensations qui peut être très agréable à vivre. Ouais. Et puis, troisième trimestre, là, c'est le système sympathique qui s'active. Et là, on commence à dormir moins bien, plus d'irritabilité. Il peut y avoir des manifestations corporelles, pas être bien. Et ça monte en puissance jusqu'au moment où, et je le dis avec beaucoup de tendresse, jusqu'au moment où cette femme, elle dit, j'en ai marre de ce bébé. Dehors, je n'en peux plus du locataire exigeant. Dehors. Ça tombe bien, on arrive à 9 mois. Heureusement, parce que sinon, si la lune de miel durait, la grossesse pourrait durer. Donc c'est bien qu'il y ait quelque chose qui s'arrête.
Juste parce que par rapport à ça, du coup, c'est là où c'est compliqué quand on accouche plus tôt.
Tout à fait.
Et voilà. Et pour ma part, le fait d'avoir accouché plus tôt, je suis pas arrivée à ce moment où il y en a ras-le-bol du locataire, quoi. Enfin, ceci dit, c'est pas tout à fait vrai, parce que le fait d'être à l'hôpital, j'en avais marre d'être à l'hôpital. Mais j'aurais bien gardé encore le locataire au chaud. Mais enfin voilà. Donc je trouve que les grossesses qui sont du coup, avec un accouchement, en tout cas pour ma part, voilà, prématuré, ça enlève quelque chose quand même.
Là, ce que vous dites, Christelle, ça m'évoque Winnicott, qui était pédiatre psychanalyste anglais et qui a parlé de ce concept qui est la préoccupation maternelle psychique. Et il parlait de folie maternelle, d'un état psychique particulier de la femme enceinte qui est exacerbé à la fin de la grossesse et qui va se poursuivre dans les premières semaines, parfois premiers mois après la naissance de l'enfant. Et il dit bien voilà, que la femme enceinte développe un état particulier. Alors, elle se réveille la nuit pour pouvoir s'adapter, pouvoir se réveiller la nuit une fois que son bébé sera là. Par exemple, ça peut se manifester de cette manière-là, avec cet état psychique particulier où elle a envie de se différencier, comme le disait Nathalie, de ce bébé. Voilà, tout ça, ça la prépare à l'accueillir, à entrer en relation avec lui, à répondre à ses besoins de manière adaptée, où il y a un temps d'ailleurs de fusion extrêmement important entre la mère et le bébé à ce moment-là.
Mais alors, quel enfer les nuits du dernier trimestre, hein. Pour ma part, c'était l'horreur. Enfin, voilà, jusqu'au moment d'acceptation encore de « Ah ok, c'est peut-être pour se préparer à l'arrivée du bébé et au fait que les nuits seront coupées, etc. » Mais ça, je trouve que c'est quelque chose dont on m'avait pas parlé, quoi, du tout. Les troubles du sommeil importants, voilà, vraiment pour moi, à la fin de la grossesse, ça, c'était quand même très pénible.
Et là, vous dites bien que pour les mères qui accouchent prématurément, en effet, elles n'ont pas eu la possibilité d'atteindre cet état psychique, psychologique, qui leur permet de s'adapter, d'accueillir leur bébé. Donc souvent, on dit, voilà, le bébé est prématuré, mais la mère aussi est prématurée.
Et ce que vous dites de la folie maternelle, moi, je l'ai ressenti très fort, mais après l'accouchement, pas au dernier trimestre. Au dernier trimestre, j'ai pas du tout ce souvenir. Alors, peut-être que j'ai oublié, mais en tout cas, j'ai pas ce souvenir-là. Par contre, après, oui, c'est clair, la fusion...
Nathalie, selon vous, est-ce qu'il y aurait d'autres objectifs à tous ces bouleversements psychologiques ?
On peut le résumer en une phrase, c'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Et alors, du coup, en vous écoutant, là, ce qui me vient, ce qui me revient dans les souvenirs, c'est que finalement, la grossesse et ses imprévus, et donc les imprévus, avec toutes ces crises, ces bouleversements, etc., c'était aussi accepter que quand un bébé arrive, je ne vais pas pouvoir tout contrôler. Et je pense que ça m'a aussi permis ça, en fait. Dans ma vie, je pouvais décider, contrôler plein de choses, programmer, avoir des projets, etc. Et tout d'un coup, pendant la grossesse, il y a des choses qui sont incontrôlables, en fait. Et ça fait partie aussi de ces bouleversements que j'ai vécus, mais qui m'ont aidée, je pense, à justement me dire, mon bébé, je ne vais pas pouvoir tout contrôler, quoi. Il va falloir que je m'adapte.
Donc finalement, ces processus, ces bouleversements, ils permettent justement de développer ces capacités d'adaptation, peut-être d'acquérir un peu plus de souplesse pour pouvoir s'adapter à la réalité qui n'est pas toujours celle qu'on attendait, qu'on a imaginé.
Exactement.
Ça peut être un peu effrayant, de savoir que son identité va changer. Là, je pense aux futurs parents qui nous écoutent. Nathalie, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les rassurer, peut-être ?
Pour les rassurer, peut-être... moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant. » Et de ne pas faire seul. Voilà, de ne pas faire seul. Daniel Stern, qui est un psychanalyste aussi, parle de la matrice de soutien. J'aime beaucoup la matrice de soutien. Christelle en a très bien parlé tout à l'heure en disant « Ce sont mes amis. Ce sont mes amis, ce sont mon... »
Les professionnels aussi.
Les professionnels, voilà. Mes amis, les professionnels, le savoir de femme à femme, tout ça, le fait de ne pas rester seule. Je pense qu'une première chose, et il y a vraiment beaucoup de... Je dirais, je vais parler de la part des professionnels. On a parlé des violences obstétricales. Beaucoup, ça a été d'actualité ces derniers temps. Il n'y a pas que ça. Il y a également une humanité extraordinaire chez les professionnels et chez les sages-femmes. Et je trouve que c'est il y a de très belles rencontres à faire. Et si j'avais à dire une chose, ne pas faire seul.
Merci Nathalie. Alors souvent, moi, je recommande des lectures à mes patientes, mes patients. Christelle, voilà, si vous deviez... Vous nous avez d'ailleurs parlé tout à l'heure d'un livre, Une naissance heureuse, d'Isabelle Brabant. Est-ce que c'est le livre que vous recommanderiez
Assez clairement le livre que je recommanderais, parce qu'il m'accompagnait toute ma grossesse. Il donne une vision, en fait... On va pas regarder le problème ou voilà le développement stade par stade, etc. C'est une vision beaucoup plus humaine en fait de la grossesse. Et il y a un autre livre aussi qui m'avait été offert par la même amie qui m'a beaucoup aidée. C'est Maternité au féminin d'Isabelle Chalut. Voilà. J'aime beaucoup partager ce que vous disiez Nathalie de ce besoin moi que j'ai eu très fort en fait d'être entourée. J'ai grand plaisir, en fait, à être présente aussi pour mes proches.
Nathalie, vous, si vous deviez recommander une lecture
plutôt qu'une lecture, je vais peut-être proposer un exercice à toutes les mamans qui nous écoutent. C'est que j'ai une amie qui est québécoise. Elle disait, quand elle était petite et qu'elle faisait une dictée à l'école, le maître d'école prenait un stabilo et stabilotait tous les mots justes. Et donc, moi, je les invite, dans une journée, à regarder tout ce qu'elles ont fait de bien avec leur bébé et d'enlever la moindre critique à leur égard. C'est de regarder, de dire, ça, je l'ai pas fait, ça, je l'ai pas fait, ça, je l'ai pas fait. OK, ça, on oublie. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Donc, moi, j'aurais envie d'offrir un stabilo à toutes les mamans.
OK. Merci Nathalie. Donc voilà, dans tout ce que vous venez, tout ce qu'on vient de partager là ensemble, on voit bien que ces bouleversements psychologiques de la grossesse, ils sont importants, ils évoluent dans le temps et ils amènent vraiment à l'émergence d'une nouvelle identité, l'identité de parent. Certainement que dans une autre séance, on aura l'occasion d'aborder d'autres aspects de cette parentalité.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.